Hey, salut Luc.
Salut.
Donc les images sont très solennelles. Hein? On sait qu'en France, on fait les choses en grand avec beaucoup de pompe quand il est question quand la République elle-même est mise en jeu. Et le meurtre de ce professeur-là par un djihadiste, ben même si c'est un individu, il incarnait quelque chose de plus grand que lui.
Ah oui, puis tu as raison de souligner que la France sait y faire dans ces moments-là, mais là, ça se reproduit, comme tu l'as toi-même mentionné dans ton entrevue avec le directeur du Paris Match,
mm-hmm.
Ça s'est tellement reproduit souvent, c'est pas la première fois que moi j'entends que je constate des funérailles extrêmement touchantes et solennelles. Il y avait eu ce policier qui était mort en défendant une attaque en s'opposant à une attaque terroriste en 2015. Il y a eu tu as eu raison de souligner le crime ignoble du curé de 86 ans qui a été assassiné pendant la messe en 2016. Et là, peut-être que là, on veut, les Français, ils ont vu la solidarité de l'État. Maintenant, ils veulent voir autre chose. Et l'ambiance en France en ce moment est extrêmement tendue. Les gens veulent voir des résultats et Macron l'a dit à plusieurs reprises, je ne suis pas venu ici pour faire une déclaration, je suis venu ici pour vous faire la liste des actions qu'on va prendre, qu'on va mettre en œuvre.
Mais Luc, si un pays comme la France, là, qui est extrêmement ciblé par le terrorisme et pas juste de notre époque, là. Moi je me souviens, là, premier voyage en France, 1990, il y avait encore là, la paranoïa, la crainte d'attentats parce qu'il y avait des attentats depuis plusieurs années. Il y a eu des vagues dans les années 80. On sait les attentats djihadistes des dernières années. Si ça n'a pas permis d'endiguer le terrorisme, qu'est-ce qui va le permettre maintenant?
C'est de réviser le droit. Le droit lui-même, la loi. C'est que il y a une gauche généreuse qui a toujours pensé en France qu'il fallait répondre avec l'état de droit et qu'il fallait raffiner les outils en restant dans le droit et la générosité. Si bien que on a proposé des outils de dialogue comme l'Observatoire de la laïcité. Il y a eu aussi des mesures légales qui ont été proposées comme renforcer la libération-expulsion. La libération-expulsion, c'est lorsque quelqu'un est arrivé aux deux tiers de sa peine ou à demi de sa peine, je pense. En France, c'est plutôt la demi. On le libère et on l'expulse dans son pays. Mais ce sont quand même des moyens légers. Là, je pense que la France va s'inspirer de ce qui s'est passé en Italie avec la lutte contre la mafia et réviser même ces textes de loi pour permettre de faire des choses qu'ils n'ont pas pu faire jusqu'à présent, comme par exemple de l'écoute électronique sur simple autorisation administrative, ou de l'arrestation préventive, qu'on appelle aussi détention administrative, ou de la déchéance de nationalité, et donc des moyens qui permettent de faire de l'écoute, du suivi et des interventions préventives. Tu sais, il y a 22 000 personnes qui sont suivies en France. Il y en a 8 000 qui sont suivies plus activement. Il y en a 850 de ces personnes-là qui sont en situation irrégulière.
Mais regarde, Luc, tu sais, tu dis comme ça, le 8 000, 2 000. 2 000, comment prédire qui va frapper, d'une part? Puis si tu les surveilles, là, si tu as de la surveillance rapprochée, pense-y, là. Tu as 2 000 personnes, ça te prend des équipes de 3, 4, 5 personnes pour les suivre.
Oui, c'est ça, c'est énorme.
À un moment donné, tu as un problème de main-d'œuvre.
Non, absolument, c'est énorme. En fait, c'est 8 000, hein, c'est pas 2 000, c'est 8 000 activement suivis. C'est gigantesque. Plusieurs intervenants ont dit que c'est un effort de guerre. Mais ils considèrent qu'ils en sont rendus là parce que ça fait, comme on l'a dit au début de l'émission, ça fait trop souvent que ça arrive et aussi, ça a changé. Avant, tu pouvais faire de l'intelligence, tu pouvais les suivre avec des moyens d'espionnage parce que tu suivais un groupe qui préparait un attentat qui pouvait prendre plusieurs années avant de faire son attentat. Ils ont mis des lois, par exemple, sur la capacité de rendre criminel le financement des attentats. Ça, c'était il y a déjà 10 ans. Mais là, maintenant, c'est différent. C'est un imam qui contacte une personne puis qui lui dit qui une personne qui est radicalisée puis généralement avec des problèmes de santé mentale. Et là, il le met en charge de faire le travail. Le Tchétchène qui a agi a été en contact avec Sefroui. L'imam Sefroui, qui est le fondateur du collectif Sheikh Yassine. Ils ont découvert sur le téléphone de Sheikh Yassine, de Sefroui, les contacts avec le père et avec ce jeune homme-là. Donc là, on est sur une piste où on sent que c'est exactement ça qui s'est passé. Là. C'est pas juste, il y a eu une cabale Internet et puis ce jeune-là a réagi à cette cabale Internet-là. Il a été contacté pour agir. Alors, c'est un modus operandi très difficile à identifier, très difficile à suivre. Alors, tu as raison de dire quelles sortes de moyens qui vont devoir être mis en œuvre pour arriver à des résultats. Ça va être énorme.
Quand tu parles d'une révision du droit, là, tu sais, ce qui distingue d'une société démocratique, puis la France fait partie de ces sociétés démocratiques, d'une dictature, c'est, bon, un, les citoyens ne sont pas sous surveillance constante. Deux, il y a un état de droit. Trois, il y a aussi une liberté de parole. On peut dire des choses qui sont assez poussées, qui sont même souvent extrêmes, sans que ce soit illégal. Et comment est-ce que, face au terrorisme, face à la radicalisation, face à ceux qui embrigadent avec des mots, comment ne pas tuer la démocratie en sanctionnant les mots qui peuvent radicaliser?
Excellente question, excellente question. Justement, aujourd'hui, c'est la question que se posait le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Il disait, je le cite, « On ne doit pas être aveugle. Il ne s'agit pas seulement de prendre conscience qu'il y a des assassins comme celui qui a commis ce crime ignoble, mais il y a aussi des gens qui créent des conditions intellectuelles, morales, pour que cet assassinat soit possible. » Et il disait, on doit être sans concession. Et là, il parlait de choses qu'on a même vues ici, comme par exemple, il disait, des gens qui mènent une cabale et qui donnent l'adresse et les numéros de téléphone des personnes qu'ils visent, ça devrait être un acte qui est dénoncé. Il n'a pas dit qu'il serait criminalisé ou pénalisé, mais un acte qui est dénoncé. On a vu ça à l'Université d'Ottawa cette semaine, nous-mêmes. Mais là, ils sont rendus à se dire, les gens qui rendent possible les cabales, contre, par exemple, il y a aussi toute la question de l'Observatoire de la laïcité. Si quelqu'un s'attaque à quelqu'un qui défend la laïcité, il serait dans une forme, pas d'illégalité, mais dans ils n'ont pas encore trouvé les mots pour signaler ça, mais c'est là qu'ils sont. Ils sont à essayer de voir comment on fait pour ne pas laisser une radicalisation se produire sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, et où ça a l'air léger à première vue, mais on donne les adresses, mais on donne les numéros de téléphone, puis on cible.
Ça, écoute, on fait un parallèle avec ici, là, on sait, le docteur Arruda, son adresse personnelle a été publiée, partagée par les conspirationnistes. Dans une société où, je te le dis, là, comme journaliste, quand tu tombes dans la vie privée, là, je te dis, avoir des renseignements, là, des fois, de plus en plus, « Ah, écoutez, non, ça, c'est des renseignements personnels, on ne peut pas donner ça, etc. » Parfait. Mais Christy, n'importe qui peut prendre ton adresse puis envoyer ça partout sur Internet. Que ce soit légal, ça, là, moi, ça ne me rentre pas dans la tête.
Effectivement, je pense que c'est le genre de choses où on va s'attendre à avoir une révision dans le droit français.
Parce que tu désignes la personne, tu désignes où pogner la personne quand tu s'y attends le moins, dans le fond. Puis parce que quand tu es chez vous, tu es supposé avoir la paix.
Effectivement. Puis lorsque tu as fait ça, mettons, à publiquement, là, à 5000 followers sur Facebook, mais c'est très dur pour la police de savoir d'où va venir le coup parce que c'est rendu public, ton adresse est rendue publique. Donc, qui est la personne dont on doit se méfier puis qui risquerait de frapper?
Ouais,
la police ne peut plus le savoir.
Sais-tu comment ils ont pogné un Américain en Floride?
Non.
Ben, ils ont demandé à Google, donnez-nous toutes les demandes, toutes les recherches qui ont été faites pour l'adresse 1234 rue Ginging.
Et ils l'ont obtenu?
Ils l'ont obtenu, puis ils ont trouvé le gars, puis c'était en effet la personne qui est allée faire un crime à cette adresse-là.
Ben, voilà un moyen.
Merci, Luc. À demain.
À demain.